Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons maintenant parler de romans ésotériques, d'ésotérisme et de romans, et comme sous-titre, Quand le mystère emporte tout. Alors, pour l'instant, Jacques Ravenne et Éric Giacometti sont en train d'arriver. Je crois qu'il y a eu. Ça sera un peu, vous savez, comme dans les romans à suspense, quand ils arrivent juste là, si ça se trouve, ils vont débouler d'un instant à l'autre. Mais bon, on va quand même commencer avec les autres auteurs qui sont ici, Henri Leuvenbruck et Jacques Basineau. Alors, ces quatre auteurs ont comme point commun d'utiliser un contexte ésotérique comme fond à leur roman. Donc, chacun de différentes manières. Peut-être, on va peut-être commencer par si vous pouviez nous expliquer ce que pour vous ça représente, ce contexte ésotérique, à quoi ça correspond et pourquoi vous sentez que vous avez votre place dans cette table ronde. Alors peut-être une histoire personnelle ou des choses qui vous ont intrigué. Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser ce fond comme base de vos romans?
L'ésotérisme, dans l'une des multiples définitions qu'on peut lui donner, c'est un savoir caché et auquel on accède par la recherche et par essentiellement l'auto-investigation. Et donc, c'est quelque chose qui est finalement très proche de la définition même d'un roman à suspense, parce que dans un suspense, il y a des secrets qui vont être révélés et que le lecteur doit découvrir de manière progressive en avançant dans le livre. Donc il y a un lien qui est assez évident entre l'ésotérisme de manière générale et les romans à suspense en particulier. Voilà, ensuite il y a d'autres raisons. Alors à titre personnel, moi l'ésotérisme m'a toujours intéressé, j'ai même envie de dire m'a toujours amusé, j'ai toujours été très amusé par l'ésotérisme. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ludique dans la démarche ésotérique. Moi, je suis, comme certains ont pu le voir en venant peut-être assister ces 2 derniers jours à des conférences dans le temple maçonnique, je suis franc-maçon depuis très longtemps. Je suis rentré en franc-maçonnerie quand j'avais 21 ans. Mais j'ai une approche de la maçonnerie et de l'ésotérisme qui est très ludique. C'est-à-dire que il n'y a pas de croyance chez moi. Je crois en pas grand-chose, en vérité. À part, justement, en l'importance de passer sa vie à chercher. Et pour moi, la recherche est toujours plus importante et intéressante que le savoir et que la foi. La foi me fait peur parce qu'il y a une finitude et une sorte d'immobilisme dans la foi qui m'a toujours fait peur. Et la démarche ésotérique est une démarche de recherche perpétuelle qui m'intéresse plus et qui m'amuse plus. Et j'ai un rapport à la littérature qui est plutôt un rapport ludique. Pour moi, la littérature est pas un divertissement, mais un amusement. Et je fais la différence entre les deux, en ce sens que je pense que divertir les gens, c'est les détourner de quelque chose, en espérant leur faire penser à autre chose qu'à des choses essentielles. Alors que les amuser, c'est faire confiance à leur intelligence. Et leur dire, vous savez pourquoi vous riez. Vous riez pas bêtement, vous n'êtes pas juste diverti, vous êtes amusé. Et dans mes romans, très bizarrement, hein, parce que étant maçon et étant auteur de beaucoup de romans qui ont l'air, vu de l'extérieur, de tourner autour de l'ésotérisme, les gens pensent que je suis un grand fanat d'ésotérisme et de mystère, alors que pas du tout, en réalité, je suis très très critique envers l'ésotérisme, ou en tout cas l'ésotérisme de bazar, comme on en vend beaucoup dans la littérature à laquelle j'appartiens. Et j'ai en général plutôt une démarche assez inverse, c'est-à-dire que dans tous mes romans, je traite de sujets qui sont des grands classiques de l'ésotérisme, mais pour finalement les démonter. Donc par exemple, dans Le Rasoir d'Occam, je parle de Nicolas Flamel. Et j'explique dans mon roman que Nicolas Flamel n'a jamais été un alchimiste et que c'est une grande fumisterie, que c'était un copiste, qu'il n'a jamais transformé le moindre gramme de plomb en or, mais que la vraie merveille, elle est là, et que c'est probablement un leurre que de vouloir aller trouver du merveilleux dans la vie de Flamel en imaginant qu'il a découvert l'immortalité et la médecine universelle, alors que finalement sa vie est encore plus merveilleuse s'il ne les a pas découverts. Et le personnage est encore plus intriguant si on se dit que sa mémoire perdure et a survécu à travers les siècles, à travers sa simple humanité, c'est-à-dire son travail de copiste brillant et intelligent. Et voilà. Et j'ai fait la même chose avec Jésus dans le Testament des siècles, c'est-à-dire que pour moi, Jésus n'a pas... Alors je vais choquer des gens, mais Jésus n'a pas besoin d'être le fils de Dieu pour être un homme extraordinaire et extrêmement intéressant. Le message philosophique de Jésus... Et fabuleux, riche, profond, et j'ai pas besoin de, personnellement en tout cas, pour être intéressé et fasciné par le personnage de Jésus, j'ai pas besoin de le faire marcher sur l'eau. Je m'en fous qu'il marche sur l'eau, quoi. J'ai pas, voilà. En revanche, ce qu'il dit, son discours, ou en tout cas ce qu'on nous a rapporté de son discours, m'intéresse énormément et me plaît beaucoup plus. Donc j'ai une démarche en général envers le merveilleux qui, au premier abord, peut paraître... Tiens, il y a un franc-mac et un diabolique qui arrive.
Ah.
On reconnaît le diabolique au Bonjour. Fait qu'il porte du verre sur une scène. Ce qui est normalement rigoureusement interdit, vous le savez. Hein ? On ne met pas de verre normalement sur une scène, monsieur Giacometti. Est-ce que tu sais pourquoi ? Dans le théâtre, pourquoi est-ce que le verre porte malheur ? Parce que le pigment qu'on utilisait pour colorer les costumes en verre était finalement extrêmement mauvais pour la santé, voire mortel. Et s'avérait parfois être un poison mortel. Et du coup, plusieurs acteurs sont morts en portant des pantalons à peu près aussi élégants que le tien.
Voilà.
Voilà. Donc, pour conclure, très bizarrement, finalement, la démarche en elle-même, elle est ésotérique parce que quand je dis... Nicolas Flamel n'était pas l'alchimiste que vous croyez, mais un personnage quand même intéressant. Finalement, c'est presque un secret que je révèle. Parce que si on dit Nicolas Flamel, tout le monde dit « Ah oui, l'alchimiste !» Et c'est peut-être plus intéressant de révéler aux gens que non, il n'était pas alchimiste. Et c'est ça qui est presque plus merveilleux pour moi, en tout cas. Voilà.
D'accord, merci. On va continuer un peu le tour de table pour savoir ce que représente l'ésotérisme... Pour Jacques Basineau, donc pour vous...
Ce qui m'intéressait beaucoup dans l'ésotérisme, en fait, c'est la porte ouverte que ça représente vers un imaginaire collectif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'humanité universelle, quelque part. On a de l'ésotérisme, quelle que soit la culture. Donc mon travail, moi, s'est beaucoup porté sur la Birmanie et puis l'Asie du Sud-Est en général. Et ce qui m'a étonné, c'est de retrouver finalement la même quête, les mêmes recherches, et puis peut-être parfois même les mêmes symboles et les mêmes réponses apportées à des recherches personnelles, comme ça, puisqu'on parlait d'ésotérisme, de savoir caché, de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est de finalement de voir que malgré les différences qu'on peut observer, aussi bien en termes de pratiques que de croyances, on en arrive finalement à... déboucher peut-être sur une forme d'humanité universelle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être que c'est le fruit de l'évolution qui nous a fait tel que nous sommes, c'est-à-dire programmés de cette manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une quête universelle donc, qui s'exprime à travers l'ésotérisme. Alors c'est pareil, j'ai un regard très critique vis-à-vis de l'ésotérisme. Je m'y intéresse en tant qu'observateur. C'est vraiment une porte ouverte vers une culture pour en appréhender complètement tous les degrés, tous les niveaux. Et simplement aller au-delà du discours et de la perception qu'on peut en avoir de manière très ethnocentrique, hein, quand on parle du bouddhisme ou d'autres croyances, montrer qu'on est très loin de ce que nous, on a envie d'y plaquer dessus. Hein, on a cette vision de la philosophie ou de la religion qui est extrêmement judéo-chrétienne, et voir que finalement, derrière tout ça, il y a des acceptations qui sont complètement différentes, mais qu'on retrouve malgré tout ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire une quête, une recherche, une envie d'en savoir plus, de voir plus, et qu'on ne se satisfait pas de ce que nous voyons autour de nous en termes de monde matériel, mais que nous avons toujours envie d'y trouver quelque chose d'autre, de l'invisible. Et ça m'intéresse énormément, parce qu'en plus, je suis extrêmement pragmatique, rationnel, et pour moi, le monde se limite à ce que nous voyons. Et je cherche à savoir, à comprendre justement pourquoi l'humain ne se satisfait pas de ça et il cherche autre chose. Voilà.
Merci. Donc, maintenant, on va passer à Éric Giacometti et puis Jacques Raven. Qui, pour vous, c'est quoi l'ésotérisme, puisque le sujet de cette table ronde, c'est romans ésotériques, et un peu dans quel cadre vous l'avez utilisé ensuite pour vos romans.
Alors, l'ésotérisme se niche n'importe où. Je vais vous en donner la preuve. Regardez cette bouteille d'eau minérale. A priori, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Ah, un détail près. C'est, la marque, c'est Acacia. Or, l'acacia, et mon co-auteur vous en parlera, est l'arbre référent de la franc-maçonnerie. Les feuilles d'acacia, vous pouvez reconnaître un franc-maçon parfois, il portera sur son veston une petite feuille d'acacia dorée. Certains francs-maçons le font. Donc, cet exemple pour vous dire que l'ésotérisme est partout et nulle part. En gros, pour nous, et pour moi particulièrement, c'est une porte qu'on ouvre n'importe où, n'importe quand, et qui ouvre sur une richesse d'infini, sur un infini extraordinaire. Et l'ésotérisme, pour moi, c'est du merveilleux. C'est du merveilleux à l'état pur. Ça ne peut pas se définir. Alors, contrairement à Jacques, moi, je ne suis pas observateur d'ésotérisme, parce que quand j'avais 16 ans, je l'avais vécu, l'ésotérisme. Avec Jacques, on est allé fouiller dans les ruines de Montségur pour essayer de trouver le trésor des cathares qu'on n'a jamais trouvé. On a essayé de trouver le trésor de Rennes-le-Château. Bref, à l'époque, on y croyait vraiment. Et c'était notre façon à nous de s'enfuir de la réalité, de s'enfuir du quotidien. Au même moment, j'étais lecteur de SF et de fantasy, mais l'ésotérisme avait quelque chose de plus, c'est qu'on pouvait presque y croire. C'est-à-dire que quand on allait dans un château à Montségur, au château cathare, on pouvait le regarder en se disant « mais il y a peut-être vraiment quelque chose, peut-être en creusant un peu, je vais découvrir un souterrain ». Et c'est ça, c'est cette porte ouverte entre l'irréel et le réel.
Mais c'était un peu le trésor du laboureur et ses enfants aussi, qui passent leur temps à chercher le trésor et qui remuent bien le champ et qui du coup va bien produire des fruits après.
Tout à fait, c'est ça, et c'est une quête aussi. C'est toujours une quête, c'est une quête d'autre chose. Moi, je ne suis pas absolument pas, dans mon métier, je suis journaliste, je suis rationnel. J'ai horreur, mais alors horreur de l'irrationnel. En revanche, le soir, la nuit, quand j'arrête mon travail de journaliste, là, j'adore l'irrationnel, j'adore le merveilleux, j'adore le fantastique, et j'aime qu'on me fasse rêver avec l'ésotérisme. J'aime qu'on me dise que les Templiers, c'était pas seulement un ordre chevaleresque militaire, mais peut-être qu'ils avaient un secret, peut-être qu'ils avaient un trésor. Et quand vous comparez l'irrationnel de l'ésotérisme à l'irrationnel du religieux, pour moi c'est exactement pareil. Quelqu'un qui croit à la résurrection d'un juif au début des siècles et qui croit qu'après sa résurrection il va fonder une religion et qu'il soit l'élu de Dieu, pour moi c'est tout aussi irrationnel que quelqu'un qui va se dire « tiens, le trésor des Templiers est peut-être au château de Gisors ». C'est exactement pareil. Ésotérisme et religion, à un certain moment donné, c'est pareil. En revanche, curieusement, la religion est acceptée partout. L'ésotérisme, c'est vu avec beaucoup de méfiance, beaucoup de scepticisme.
Jacques Rappel.
Moi, ce que je remarque, c'est que vous avez Nestlé. Tandis que nous, on a Acacia. Et Henri.
Non, il y a les deux. Ah, c'est Nestlé, Acacia.
Vous voyez, la définition de l'ésotérisme, vous l'avez.
Tout dépend du point de vue.
Vous l'avez, c'est même pas la peine de continuer, il faut retourner la bouteille. La définition de l'ésotérisme, c'est l'envers du décor, purement et simplement. Eric l'a déjà avancé. En fait, quand on cherche à définir l'ésotérisme, on est très vite confronté à un problème, c'est qu'il y en a deux. Vous avez l'ésotérisme le plus connu, qui consiste à penser que de tout temps, dans l'humanité, il y a un secret qui est caché, quel qu'il soit. Ça peut être un secret monétaire, ça peut être un trésor infini, ça peut être la descendance du Christ, ça peut être beaucoup de choses, et que ce secret, il faut le trouver et qu'il a été préservé par un groupe. Ça, c'est le secret, c'est une vision de l'ésotérisme totalement romanesque. Alors, ça a un grand avantage, puisque nous faisons des livres à partir de ce romanesque-là, tout à fait. Ça a aussi un certain nombre de désavantages. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où ce type d'ésotérisme se répand, vous avez une croyance basique ésotérique qui se répand aussi. Le résultat, c'est que les gens finissent par le croire. Je sais que tu as une expression sur les vessies ésotériques. Je ne me rappelle plus. Redis-la, parce qu'elle me convient tout à fait.
On ne fait pas prendre à nos lecteurs des vessies maçonniques pour des lanternes spirituelles.
Non, mais on l'avait rodé. Hein, c'est... ne croyez pas que c'est... Alors, par exemple, vous prenez Rennes-le-Château, qui est un petit village dans l'Aude où un curé aurait trouvé un trésor totalement fabuleux à un certain moment. Ça a dérivé au fur et à mesure des années. Et maintenant, vous avez le corps du Christ qui est enterré dans une colline voisine et Marie-Madeleine qui aurait fait une descendance. Sauf que si vous interrogez le maire de la commune, il a à peu près entre 30 et 50 000 visiteurs par an dans une commune qui fait 76 habitants. Hein. Ils ont été obligés d'élargir la route. Ils ont fait un petit train touristique pour monter. Mais ce qui est fabuleux, c'est les questions que les gens posent. La dernière fois qu'on l'a vu, il nous a raconté qu'il y avait un couple d'Espagnols catholiques, je précise parce que ça a son importance, d'une trentaine d'années, visiblement avec un léger bagage universitaire, au moins ça, et qui lui ont demandé dans un français impeccable où se trouvait la maison de Marie-Madeleine. Il a eu beaucoup de mal à répondre, mais depuis il a réfléchi. Il s'est dit que s'il arrivait à trouver une maison avec Marie-Madeleine dessus, et qu'il fasse payer l'entrée, ça marcherait très bien. Ça, c'est la dérive ésotérique que nous on combat, ce que s'appelle l'ésotérisme de pacotille, qui finit par être en fait l'ésotérisme des marchands du temple. Mais le fond de l'ésotérisme, c'est pas ça. Le fond de l'ésotérisme, c'est penser que face à une religion qui se veut révélée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, face à une dogmatique, derrière ce dogme, on peut l'interpréter différemment. Qu'on peut trouver une sagesse, qu'on peut trouver une pensée, qu'on peut trouver une philosophie que le dogme interdit, que le dogme récuse. Et le véritable ésotérisme, c'est quoi ? C'est quelle que soit la religion qu'on a, c'est de se libérer de la dogmatique. L'ésotérisme, c'est une liberté vers le sacré au-delà des religions. Et cet ésotérisme-là me paraît fondamentalement valable. Je précise quand même que ce n'est pas celui qui est le plus connu ni le plus recherché, malheureusement, mais cette quête du sacré au-delà de tous les dogmes, qu'on retrouve, on ne va pas faire de la publicité, parce que sinon vous avez pensé que les bouteilles acacia, c'est Henri et moi qui les avons amenées, mais qu'on retrouve un petit peu, c'est vrai, il faut l'avouer, dans la franc-maçonnerie.
Et donc en vous écoutant, je pense à une chose, vous écrivez des policiers, des thrillers, vous n'écrivez pas du fantastique. Alors...
Vous savez, la frontière, c'est ténu, hein, parce que qu'est-ce qui est fantastique, qu'est-ce qui est ésotérique ? Je vous donne un exemple. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Nicolas Flamel. Nous, on avait utilisé Nicolas Flamel dans Le Frère de Sang. Bon, thriller traditionnel, classique, avec tous les codes réalistes. Sauf qu'à la fin, ça bascule dans le fantastique. À la fin, on s'aperçoit que Nicolas Flamel est immortel parce qu'il a trouvé le secret de l'or absolu, de l'or éternel. Donc là, on a basculé dans le fantastique. Et c'est très difficile parfois de se dire on va choisir un camp plutôt qu'un autre. Il y a une zone floue, c'est clair. Et en 8 ans d'écriture... Je suis toujours, moi, personnellement, tiraillé entre le réel et l'irrationnel. Alors, on brouille un peu les pistes.
Alors, entre chien et loup, quand vous passez du métier de journaliste...
Non, en revanche, c'est ça. C'est au moment journaliste, c'est une chose, c'est le réel. Après, on passe à autre chose. Mais c'est quoi ? Je vais vous dire pourquoi, en fait. Moi, j'adore le côté merveilleux de l'ésotérisme. Mais de la même façon que j'étais lecteur de SF et de fantasy, c'est que mon job, j'étais chef de service au Parisien, au service économie, au Parisien aujourd'hui en France... C'était de relire des papiers sur la dette, le chômage, les entreprises qui ferment, les suicides dans les entreprises, les banques qui s'en mettent plein les poches. Quand votre job, c'est de faire ça tous les jours, vous en avez jusque-là. Parce que c'est pas forcément fun. Et à un moment donné, vous avez envie de vous évader, vous avez envie d'aller dans d'autres univers, vous avez envie de rencontrer d'autres personnages, vous avez envie de recréer une réalité. Et cette réalité-là, parfois, elle est beaucoup plus intéressante.
Donc, on a bien cerné maintenant ce que représente pour vous l'ésotérisme. Je crois que pour tous les trois, c'est surtout quelque chose qui vous rapproche qui n'a rien d'irrationnel, bien au contraire, qui est plutôt une façon de lire le monde, qui est plutôt une façon de concevoir, de regarder peut-être certaines choses historiques. Hein, l'histoire de Nicolas Flamel, c'est un fait historique, les choses dont on parle. Et la légende, le fait qu'il soit resté l'imagerie populaire comme un alchimiste, ça reste aussi un fait, mais le fait qu'il n'en était pas un reste aussi un fait. Et à partir de toutes ces données, vous construisez quand même des histoires d'aujourd'hui. Et... Comment ensuite, au niveau de la logique de l'histoire d'aventure, vous reprenez ça ou est-ce que vous mettez autre chose derrière ? Est-ce qu'il y a juste un peu un décor qui est lié à cette histoire-là ou est-ce qu'il y a d'autres choses, une autre symbolique que vous remettez dans vos romans ? Alors,
pour moi, le cœur d'un roman, c'est les personnages. Et tout ce qui est autour, c'est du décor, c'est un outil. Moi, je disais hier que j'ai le sentiment que de décider d'utiliser le genre fantastique ou le genre science-fiction ou le genre roman historique ou le genre roman d'amour pour raconter une histoire, c'est un choix qui est le même que celui d'un artiste quand il se demande si pour peindre ou pour en tout cas représenter cet arbre, il va utiliser un couteau, un crayon, un feutre, un stylo ou des pinceaux, ou de l'huile ou de l'aquarelle, ou etc. C'est un outil qui nous permet à la fin de représenter un arbre. Alors on ne le représente pas forcément de la même manière, mais en tout cas l'objet réel, c'est l'arbre. Moi, dans mes romans, j'ai le sentiment toujours de ne rien faire d'autre que de présenter nos dénominateurs communs dans ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Et que tout le reste, ce n'est que du décor qui sert à illustrer ça. Je prenais aussi l'exemple, quel est l'intérêt de réécrire 50 000 fois Tristan et Iseut comme ça a été fait ? On a écrit Tristan et Iseut, après on a fait Roméo et Juliette, après on a fait West Side Story, après on a fait Titanic. C'est tout le temps exactement la même histoire, deux familles, ou en tout cas deux êtres qui viennent de milieux complètement différents, voire opposés, et qui se détestent, et dont l'histoire d'amour sublime ces différences. Et voilà, et cette histoire d'amour finit de manière dramatique. Bref, pourquoi on continue de réécrire ces choses-là ? Finalement, on s'en fout que ça se passe à New York, on s'en fout que ça se passe à Vérone, ou on s'en fout que ça se passe sur un bateau qui coule. Ce qui compte, c'est l'histoire d'amour. Donc moi, j'ai le sentiment profond que ce qui fait la substantifique moelle de nos romans, c'est ce qu'ils ont en commun avec les lecteurs qui les lisent, c'est-à-dire leur humanité, quoi. Et l'ésotérisme n'est pour moi, ou en tout cas l'approche ésotérique dans certains de mes romans, n'est pour moi qu'un prétexte pour servir simplement des histoires humaines. Et c'est cette fonction-là que je donne à la littérature. J'ai le sentiment que les livres... Alors, finalement, c'est d'ailleurs... C'est assez intriguant parce que c'est la lecture est un acte extrêmement solitaire. On ne lit pas à deux, contrairement au cinéma, par exemple. On peut aller voir un film ensemble, le regarder en même temps, etc. S'asseoir. C'est très, très rare de lire... C'est pas très pratique de lire un livre à deux. Donc, c'est quand même, en général, un acte d'onanisme absolu. Et en même temps, j'ai le sentiment, moi, que la fonction de la littérature est justement un partage plus profond encore que celui qu'on pourrait avoir à travers beaucoup d'autres de moyens d'expression, parce que où qu'on soit sur la planète, on peut très bien lire... deux personnes peuvent lire le même roman, l'un... à Rio de Janeiro et l'autre à Tokyo, et éprouver une communauté d'émotions en lisant, et pas seulement entre deux lecteurs, mais simplement, mais aussi ce partage entre l'écrivain et le lecteur. Et donc c'est amusant parce que cette foule d'actes solitaires crée comme ça une communauté qui pour moi justifie la littérature, et c'est plutôt ça moi qui m'intéresse. Alors après, la corde sensible sur laquelle on décide de jouer pour réussir à faire ressentir ses émotions et pour pouvoir partager ses émotions tous ensemble, elle est presque anecdotique, quoi. Dans le thriller, on est plutôt dans le thriller ici. Thriller, ça veut dire frisson. En tout cas, ça veut dire qui provoque le frisson. Voilà. Le frisson, c'est thrill. Donc thriller, c'est qui provoque le frisson. Ce frisson, c'est la petite corde sensible sur laquelle on a choisi de jouer pour aller droit dans le cœur du lecteur. Ça ouvre une porte. Quand on joue comme ça avec les émotions des gens, ça ouvre une porte. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être l'humour, ça peut être la peur. Il est vrai que, par exemple, le choix qu'on fait quand on décide de faire un livre ou un film nous impose de ne pouvoir jouer, avec telle ou telle émotion. Je prends souvent l'exemple... De la peur, la véritable peur. Au cinéma, c'est très facile. On fait une porte qui claque, paf, comme ça, et les gens sursautent dans la salle. On ne sursaute pas avec un livre. On peut éprouver de l'angoisse profonde, on peut avoir peur et avoir envie d'arrêter de lire le livre parce qu'il nous fait trop flipper, mais on ne sursaute pas comme ça tout à coup parce qu'il y a eu un grand bruit, etc. Donc le registre d'émotions qu'on peut utiliser dans un livre n'est pas le même que celui qu'on peut utiliser dans un film. Par contre, le résultat produit peut être le même. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, l'ésotérisme, je suis désolé de vous décevoir, mais pour moi, il est complètement anecdotique, quoi. Et
Non, mais c'est.
Ce n'est qu'un outil.
Voilà. C'est un décor, en gros.
Absolument.
C'est un décor, une histoire, pas prétexte, mais une base, une trame de l'histoire. Souvent, entre le livre historique et puis l'histoire réelle, il y a quand même un lien, mais ça sert plutôt de décor.
Que c'est un outil que j'utilise parce que c'est un outil que je connais bien. Stephen King disait lui-même que quand on écrit un roman, il vaut mieux utiliser des sujets qu'on maîtrise mieux que les autres. Donc lui, il a été prof toute sa vie. Donc il a un nombre de personnages dans ses romans qui sont profs qui est assez étonnant. Il a vécu dans le Maine toute sa vie, et la plupart des romans de Stephen King se passent dans le Maine. Et ben moi, je suis rentré en maçonnerie à l'âge de 21 ans et j'habite à Paris, et donc mes romans parlent souvent de franc-maçonnerie et de Paris.
En plus, comme vous le dites bien, ces données ésotériques sont souvent des énigmes à résoudre déjà par elles-mêmes. Et du coup, ça fait un très bon thriller parce qu'il suffit de rajouter un élément plus récent et d'un seul coup, on a quelque chose qui nous embarque dans une histoire. On se dit, c'est bien construit, il y a plein de choses, ça devient très cohérent. Et côté ludique, dont vous parliez.
Alors après, derrière, il y a quand même aussi autre chose. Il y a un lien pour moi assez évident entre ce qui me pousse à écrire et une partie de la démarche ésotérique. Et c'est un peu ce que je disais avec l'histoire d'amour éternelle de Roméo et Juliette et Tristan et Isolde, c'est une façon d'universaliser les propos, c'est-à-dire que souvent quand on utilise un cadre un petit peu fantastique ou ésotérique, ça permet de ne plus regarder le monde avec un regard quotidien qui est celui que nous on a dans tous les jours en regardant la télé, mais de se dire « Ah tiens, si le monde était un peu différent, si je le regardais avec un éclairage différent, est-ce que mon opinion en serait changée ? C'est-à-dire, est-ce que telle information, si elle m'est présentée à la télé, dans les journaux, et ensuite, si je la compare à une information, à un événement qui est à peu près similaire, mais qui est dans un cadre fantastique ou ésotérique, ça m'oblige à regarder les choses différemment. Ça m'oblige à changer mon point de vue, moi en tant qu'auteur et vous en tant que lecteur. Et ça, c'est super intéressant. C'est une démarche ésotérique. C'est pour ça que la plupart des courants ésotériques utilisent beaucoup de symboles. Quand vous rentrez dans un temple, comme vous avez là en ce moment l'occasion de le faire, puisque le temple d'Épinal est ouvert à tout le monde, vous voyez des symboles partout qui peuvent être rigolos ou qui peuvent être intéressants. Mais en tout cas, la démarche, elle est là. C'est-à-dire utiliser... réduire à sa plus simple expression une idée un petit peu universelle pour essayer justement tous de pouvoir en parler avec un regard un peu nouveau, quoi. Voilà.
Bien, merci. Pour continuer un peu sur ce regard décalé, sur ce pas de côté, sur cette façon haute de regarder le monde, Jacques Basineau, lorsque vous nous expliquez ce qui se passe en Birmanie, vous nous parlez d'ésotérisme en Birmanie. Est-ce que c'est pas aussi une façon de regarder par décalage des choses plus universelles qui se passent ici ?
Oui, en fait, si vous voulez, pour revenir un petit peu en plus sur les échanges qu'il y a eu avant, c'est vrai que justement, étant un peu hyper rationnel, il y a une sorte d'envie de croire, hein, j'ai envie de croire dans quelque chose de surnaturel, dans quelque chose de merveilleux, de fantastique. Et j'utilise l'ésotérisme non pas comme un décor justement, mais comme une manière de réenchanter le monde. C'est-à-dire que pour moi, le décor et le cadre que j'utilise dans mon roman, ce sont des événements réels, donc les manifestations des moines en 2007, des événements historiques, le début de la colonisation, la chute de Mandalay, la dernière capitale du royaume de Birmanie, etc. Et j'utilise du coup l'ésotérisme comme une manière de déjà réenchanter cette réalité. Et puis, Eric et Jacques ont fait tout à l'heure, c'est-à-dire de voir l'autre côté de la bouteille, c'est-à-dire à travers l'ésotérisme de réinterpréter des événements réels, historiques, mais d'un point de vue un petit peu magique, voir un petit peu l'autre côté de la réalité. Et c'est ça qui m'a intéressé dedans, c'est-à-dire c'est voir un peu la petite histoire dans la grande histoire. C'est vrai qu'on a souvent, et c'est un petit peu notre manière d'aborder l'histoire en Europe, on parle de grands événements, on aime bien les dates, on aime bien les faits historiques, en plus d'une manière très cartésienne. On oublie très souvent finalement la dimension extrêmement humaine, extrêmement individualiste de certains faits historiques. Et je voulais remettre déjà l'individu dans le microcosme et dans le macrocosme, redonner une dimension à l'individu dans les grands événements historiques, redonner donc une part finalement de ce qui est irrationnel en nous, dans ces événements qui, quelque part, peuvent être expliqués. Alors, c'est comme en mécanique quantique, vous savez, quand on explique, ou en fractal, on dit qu'il faut sursommer. Donc, il faut, en fait, pour pouvoir comprendre et sortir des grandes règles, on sort de toutes les petites aspérités, on prend de la hauteur, et ça permet de trouver une certaine logique, et de pouvoir expliquer certains faits et de les simplifier, etc. Le but, c'est de trouver des règles de simplification. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait très souvent en histoire, c'est-à-dire on essaye de prendre de la hauteur, on simplifie un petit peu la réalité. Et je voulais retourner là-dedans et triturer un petit peu les choses pour retrouver cette complexité due à l'aspect humain, à la psychologie, aux croyances individuelles ou aux croyances collectives, l'imaginaire collectif. Donc réintroduire en fait de la magie dans ce réel, réenchanter le monde. Et c'est donc l'ésotérisme est encore une fois un outil, comme disait Henri, mais beaucoup plus qu'un décor, parce que du coup là, il sert d'outil pour réexpliquer le décor réaliste, enfin du monde que nous connaissons, que nous vivons. Voilà.
Merci. Alors, Jacques Ravenne et Eric Giacometti, si vous voulez reprendre quelque chose, sinon j'aurais une question aussi à vous poser concernant le commissaire qui est franc-maçon. Est-ce que c'est un qu'est-ce que ça lui apporte d'être franc-maçon? Voilà.
Alors, il a plein de copains qu'il dépanne. Voilà, par exemple, il a pour trouver un médecin à 9h du soir, bah, c'est bon, il prend son pote franc-mac. S'il a des problèmes avec sa hiérarchie, c'est bon, il va faire appel à un de ses potes franc-mac qui va pouvoir lui débrouiller. Ah bon,
ça se passe comme ça, alors.
C'est là qu'on voit que vous êtes dans la fiction. Hein, parce c'est là. Dire, moi, à chaque fois que j'ai un frangin qui est médecin, je l'appelle, il a pas le temps. Si j'ai pas de frangin plombier, j'ai toujours besoin d'un plombier. Il y a jamais un franc-maçon plombier.
Mais
il
y a pas
de
franc-maçon plombier. Homer Simpson dans...
Oui, ouais. C'est vrai.
Oui, oui.
C'est là ça, qu'on ça voit marchait. Que dans la fiction, Jacques pourrait te dire que ça ne marche pas. Hein.
Et justement c'est que j'étais en train de dévider tous les clichés, mon cher Henri. Donc, ensuite, il a un problème de divorce. Bah bon, il va prendre un avocat franc-maçon qui va faire appel à un juge franc-maçon. Bref, et s'il a problème d'argent, évidemment, son banquier, qui est maçon de la même loge, va pouvoir lui arranger les choses. Non, évidemment, ce qu'elle lui apporte, il y a deux choses. Il y a pourquoi on a un héros franc-maçon et ce qu'apporte la maçonnerie. Alors, ce qu'apporte la maçonnerie, Jacques pourra vous en parler mieux que moi, puisqu'il a une vie de rêve, parce qu'il est maçon, moi pas du tout. En revanche, non, un héros maçon, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça nous permet d'aller justement contre tous ces clichés. À chaque fois, Marcas, il lui arrive des problèmes de la vie quotidienne, et on voit qu'être maçon, ça ne résout pas forcément les choses. En revanche, dans certaines strates du pouvoir, oui, effectivement, les loges, et dans les loges, certaines obédiences ont du pouvoir, c'est clair. Quand vous avez un Jérôme Cahuzac et on apprend qu'il est maçon, au Grand Orient, ton obédience. Oui, c'est vrai. Et cette loge qui a recruté Jérôme Cahuzac, évidemment, mon cher Henri, ne va pas recruter de plombier. Elle ne va pas recruter de chômeur. Elle ne va pas recruter de petit employé. Et non, parce que dans certaines loges, on se coopte pour avoir des gens qui sont plutôt intéressants. Donc, c'est à la fois des clichés, et effectivement, il y a des choses qui n'existent pas, mais en revanche, dans certains endroits, certaines strates, oui, effectivement, ça peut intervenir. Par exemple, est-ce que vous en êtes, vous? Ah, vous n'osez pas le dire. Ils sont partout, sachez-le. Non, je plaisante. Restez tranquille.
Tu veux pas les écrire tout seul, les bouquins, Jacques, parce qu'il est quand même un peu néfaste, ce garçon.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous consommiez de cette parce que vous ne l'avez pas ouverte, en fait. Je ne sais pas si vous vous méfiez.
De quoi?
Oui, de l'acacia,
oui,
à l'eau, oui.
Oui.
Mais consommez de cette texanto acacia, parce non. Que ce qu'Henri ne vous a pas dit, c'est qu'on a 10% dessus chaque fois.
Attendez, on va faire comme un tour. J'ai peur. Bon, je vais la goûter quand même après.
Non, c'est très drôle, parce que la symbolique de l'acacia, c'est un arbre dont on dit effectivement qu'il joue un rôle important dans la symbolique maçonnique, en particulier parce qu'il est imputrescible, parce que, etc., etc. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand vous revenez au texte d'origine anglais, on s'aperçoit que c'était le mot casse qui a été traduit en français par acacia, et en fait, ça n'a rien à voir. La casse, c'était la cassonne, c'était le sucre.
C'est comme la pomme de la
Bible. Et on est comme Saint Jérôme, hein, vous savez, on fait des erreurs de traduction, nous aussi, ça nous arrive. Voilà. Donc vous ne risquez rien en buvant l'acacia. Mais j'arrête de dire ça maintenant parce qu'elle est capable d'en boire et d'avoir un malaise à la sortie. Et après encore les anti-maçons primaires comme ce vaurien à côté vont dire que c'est notre faute.
Jacques, c'est super parce qu'il faut que vous sachiez une chose. C'est que Eric et moi, on a une vieille guerre qui... on se déteste, on ne peut pas se blairer, qui dure depuis quelques années, où moi, je ne sais pas si vous avez lu le Pendule de Foucault d'Umberto Eco, mais je le traite de diabolique. C'est-à-dire, les diaboliques, ce sont ces gens qui vont vous prendre cette bouteille-là. Ils vont dire, alors attends, parce que je peux vous montrer la démarche fumiste, de la fumisterie du diabolique. Il y a écrit Acacia. Acacia, c'est un arbre des maçons. Devant, il y a trois petits personnages. Trois, c'est le chiffre des maçons. L'étiquette, elle est bleue. Ah, les loges, elles sont bleues chez les francs-maçons. Bon, bah, c'est clair, c'est une bouteille franc-maçonne. Et avec ça, vous écrivez le Da Vinci Code. Voilà.
Pour répondre à Henri, bien évidemment, on assume totalement. Alors moi, du coup, je lui renvoie. Bah lui, il écrit du thriller Scooby-Doo. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce dessin animé Scooby-Doo ? Moi, ça m'énervait quand j'étais gamin. Parce que quand on regarde un Scooby-Doo, c'est une histoire de vampire, de loup-garou, de fantôme. Et puis, arrivé à la fin, on s'aperçoit, hop, enlève ton masque. C'était le grand-père ou la grand-mère ou le plombier du coin. Qui était... Et je n'en pouvais plus. Je hais Scooby-Doo. Donc lui, il me balance qu'on fait des thrillers diaboliques et lui, des thrillers Scooby-Doo. Mais néanmoins, on est quand même potes. Voilà.
Alors, j'adore vous rendez compte quand même dans mon dilemme. Celui-là, c'est mon frère et celui-là, c'est mon co-auteur. Vous imaginez la famille de merde. C'est vraiment totalement terrifiant. Bon, alors maintenant qu'on est passé par Scooby-Doo, Umberto Eco, enfin, ça fait quand même un sacré truc. Moi, ce que je remarque, c'est que tous les deux ont une obsession sur les plombiers. Je sais pas si vous avez des problèmes chez vous. Non, mais un bon franc-maçon n'a pas ce problème-là. Ses plomberies ne tombent jamais en panne, déjà, par définition. Ça, voilà, il faut le savoir. Vous avez remarqué que j'ai fait un triangle?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Est-ce que vous sentez mieux?
Oui, c'est mieux.
Oui, c'est mieux, là?
C'est mieux.
Intellectuellement, ça va mieux?
Oui, vraiment.
Bon, alors, allez-y, posez-moi une bonne question.
On en était à savoir qu'est-ce que ça apportait à votre commissaire d'être franc-maçon et le rôle de la franc-maçonnerie dans vos romans. Enfin, qu'est-ce que
donc bon, on a pour une fois, je vais être d'accord avec Henri. Désemmerdement une fois, désemmerdement deux fois et désemmerdement trois fois. Non, en fait, ça complexifie.
Voilà, parce que votre co-auteur disait que ça lui apportait plein de bénéfices au quotidien et bien sûr en tombant dans...
Alors, pour être clair, il se trouve que en France, le monde des commissaires de police et le monde de la franc-maçonnerie sont des mondes assez osmotiques. C'est-à-dire qu'un nombre assez important de commissaires sont francs-maçons. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus ce pourcentage augmente. Donc, quand on a décidé de créer un personnage de flic franc-maçon avec Eric, je ne dis pas qu'on avait des modèles, mais on avait quelque chose qui existait déjà, dont on connaissait un petit peu le fonctionnement. Mais ce qui est assez étrange, c'est que quand vous discutez réellement avec un commissaire franc-maçon, ben vous avez deux manières de voir les choses. Il y a le public qui va dire « Oh, il y a tant de pourcentages de francs-maçons au ministère de l'Intérieur, on appelle ça une ruche ». On a l'impression que voilà, ils font leur miel, en quelque sorte. Mais si vous regardez de bien, c'est plutôt une problématique. Parce que vous êtes qu'en franc-maçon, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout le monde vous demande des services déjà, au nom de la fraternité. Bon. Surtout quand on est plombier, ça c'est évident. Quand on est écrivain, en général, personne ne vous demande des services parce que vous pouvez rendre un service à personne. Bon, à part quand vous écrivez effectivement des romans d'amour, à la rigueur, on peut vous demander de faire une lettre, mais c'est assez limité. Mais généralement, ça cause plutôt des difficultés. D'abord parce que sur des enquêtes sensibles, vous serez soumis à une double pression. À la fois celle de votre hiérarchie et à la fois celle des francs-maçons dans votre hiérarchie. Et parfois, cette pression n'est pas la même. Parce que les buts ne sont pas aussi les mêmes. Et ensuite, penser qu'il suffit d'un coup de fil, qu'il suffit d'une rencontre pour régler un certain nombre de difficultés, non, réellement, c'est faux. La franc-maçonnerie met de l'huile dans les rouages, mais par rapport à mes deux amis, là, elle ne met pas de l'eau chaude dans les tuyaux de la plomberie.
Bien, merci. J'aurais aussi une question, mais alors là, qui vous concerne un peu tous. Est-ce que vous avez l'impression que vos lecteurs... sont plutôt francs-maçons, non-francs-maçons, ou sont intéressés, après avoir lu vos romans, par l'ésotérisme dont vous parlez ? Enfin, est-ce qu'il y a une relation entre le fait de lire vos romans et aller faire une démarche vers la franc-maçonnerie ou pas ?
C'est dégueulasse votre question, parce que Jaco et Raven, ils ont plus de lecteurs qu'il n'y a de francs-maçons en France.
Non, j'ai dit, est-ce que
et
ça
là,
peut
tout
donner...
de suite, on est obligé de parler de chiffres, vous voyez.
Est-ce que ça peut donner envie ? Ou est-ce que vous avez des histoires de personnes qui vous ont dit...
Très honnêtement, je pense finalement assez peu. en ce qui me concerne. Et moi, mes romans, il n'y a pas de sujet de franc-maçonnerie dedans, très rare. Voilà. Alors dans le cas d'Éric et Jacques, c'est très différent. Mais Jacques, pareil, ça parle pas de franc-maçonnerie. Mais en revanche, c'est plutôt. Moi, je pense que nos lecteurs sont plutôt des gens comme Éric Giacometti, c'est-à-dire non mais c'est pas de l'humour. C'est-à-dire des gens qui ont adoré Belphégor quand ils étaient. Éric a découvert l'ésotérisme avec Belphégor, si je me souviens bien.
53, oui.
Voilà. À une époque où tu n'étais encore qu'une étincelle dans l'œil du facteur. Et voilà, je pense que nos lecteurs finalement ressemblent plutôt à Eric, quoi. Donc plutôt des profanes, ce qui est très très drôle quand même entre eux deux. Moi, c'est à mourir de rire. C'est que le plus diabolique des deux, c'est celui qui est pas maçon, quoi. C'est génial.
Tu as raison. Il faut savoir qu'en fait, on confond souvent maçonnerie et ésotérisme, mais ça a pas grand-chose à voir. Vous avez des obédiences en maçonnerie. Prenez par exemple le Grand Orient. Quand vous parlez dans certaines loges d'ésotérisme, mais ils en ont rien à cirer de l'ésotérisme. Ils n'aiment pas ça. Pour eux, c'est le grand n'importe quoi. Vous allez dans d'autres loges, en revanche, ils adorent ça. Donc la maçonnerie n'est pas homogène, contrairement à ce qu'on croit. Première chose. Deuxième chose, oui, effectivement, je pense que là, Henri, on est d'accord. Moi, quand je lis un thriller ésotérique, c'est pour rêver, pour m'évader. Si je veux lire un thriller qui me raconte la réalité, je vais prendre un polar pur et dur. Voilà. Si j'ai envie de m'évader encore plus, je vais prendre de la SF ou de la fantasy. Donc après, une question de choix de lecture. Et dans la maçonnerie, en revanche, nous, avec Marcas, on essaye aussi de faire passer certaines idées. Alors là, en revanche, on l'assume, et moi je l'assume en tant que profane, je dirais presque pro-maçonnique. Je vous donne juste un exemple, et je m'arrêterai là. Au Brésil, quand il y avait l'esclavage au Brésil, et pour abolir l'esclavage, il y avait deux solutions. Soit faire ce qui s'est passé aux États-Unis, avoir une guerre civile, soit essayer de passer par des moyens un peu plus diplomatiques. Et à l'époque, les loges maçonniques étaient toutes abolitionnistes. Tous les abolitionnistes faisaient partie de loges maçonniques au Brésil face à un camp qui était un peu plus catholique, un peu plus traditionnel. Et c'est un maçon qui a eu cette idée extraordinaire. Cette idée extraordinaire, c'était la loi du ventre libre. Il a dit, voilà, toute femme esclave qui va donner naissance à un enfant, à partir du moment où l'enfant va surgir à la lumière, ce sera un homme libre ou une femme libre. À l'époque, c'est une révolution totale. De passer des ténèbres à la lumière. Et ça, pour un maçon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une symbolique. Quand vous êtes, pour un maçon, tant que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes profane. En revanche, aller en maçonnerie, c'est aller chercher la lumière. Et bien là, il y a vraiment, je dirais, la conjonction entre un symbolisme puissant et une action bénéfique, positive dans la société. Et dans nos romans, dans nos thrillers, qui sont, je le rappelle avant tout, des thrillers de divertissement, on n'a pas les prétentions de rester dans les annales de la littérature ni d'avoir le prix Goncourt. Mais en revanche, nos lecteurs, on aime bien leur faire partager ce qu'on découvre nous aussi. Et moi, je suis parti au Brésil, j'ai découvert cette histoire au Brésil, à Salvador de Bahia, et je peux vous dire que le maçon qui m'a raconté ça, c'était un frère qui devait avoir 75 ans, il avait les larmes aux yeux. C'est-à-dire que quand il vous rappelait ça, parce que lui-même était métis, ses parents de 3-4 générations étaient des esclaves, pour lui, la maçonnerie, ça voulait dire quelque chose. Ce n'est pas la maçonnerie qui est de dire « je vous rends des petits services, des petits à côté ». Non, là-bas, il y avait ce côté, la maçonnerie est vraiment un vecteur de progrès social. Donc, voilà, nous, la maçonnerie, ben, dans nos romans, on essaye de parler de choses comme ça et de donner peut-être, d'allumer des petites étincelles. Et c'est vrai que parfois, on a des gens qui, en lisant nos bouquins, frappe à la porte du temple et dire bah voilà, tiens, j'ai lu dans Marcas, je voudrais savoir ce que c'est. Alors évidemment, on ne trouve pas tout ce qu'on trouve dans nos bouquins, mais néanmoins, si on allume cette petite étincelle, on en est fier. Et moi particulièrement en tant que profane, sachant que je n'en suis pas et je n'en serai probablement jamais.
Il est bien mon co-auteur, hein ?
Oui, il a tout dit.
Bah oui, il a quasiment tout dit. Oui, on essaye quand même, et je pense que là ça me paraît très important de le dire, de démystifier ce qu'est la franc-maçonnerie. L'ésotérisme, ça permet de mythifier, de remettre du mythe. Et je pense qu'on en a vraiment besoin à l'état actuel des choses. Mais sur la maçonnerie, il est important de démystifier parce que, quand même, depuis maintenant une vingtaine d'années, Henri le confirmera, il y a une sorte de vent mauvais qui souffle sur la maçonnerie. Bien sûr, il y a eu des affaires qui sont sorties dans les médias, mais il y a la manière de parler de la maçonnerie dans les médias. Je vous cite un exemple classique qui, moi, m'avait quand même relativement surpris. Il y avait une couverture d'un magazine qui était « Où se cachent les francs-maçons dans les médias ?» Si vous avez la curiosité de regarder en 1936 mensuel qui s'appelait Je suis partout et qui était plus qu'extrémiste, c'est-à-dire que les lupinistes à côté, ça ressemble à des radicaux socialistes, vous avez Où se cachent les juifs dans la presse. Moi, je ne vois pas la différence, je ne vois pas la problématique. Et ce qui me gêne un petit peu, voilà, c'est que ces courants se développent de plus en plus. Il y a un ésotérisme négatif derrière qui mélange énormément de choses. Et la franc-maçonnerie apparaît aujourd'hui comme quelque chose d'obscur, de compliqué, de ténébreux, d'englué dans la politique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le frère Cahuzac ne nous a pas aidé beaucoup, etc., etc. Il y a une nécessité un peu de faire une différence par rapport à ce genre de choses et apporter un petit peu de lumière sur une organisation qui sent ténèbres aux yeux du public.
Bien. Donc, je crois qu'on approche de la fin de cette table ronde. Et un peu en conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour mieux connaître l'ésotérisme et la maçonnerie, aller discuter avec des maçons ou lire des romans ?
Honnêtement, non, et pour moi, l'ésotérisme, c'est, si on parle vraiment de l'ésotérisme, si on parle de littérature, de fiction, etc., là, effectivement, le meilleur moyen, c'est de lire Giacometti et Ravenne. Ouais, si vous citez pas Leuvenbruck tout à l'heure, voilà. Ça va mal se passer. Hein. Toi, tu vas perdre 2-3 grades.
C'est moi, mais là, c'est pas possible autrement.
Et mais voilà, maintenant, si on parle de l'ésotérisme pur, moi, c'est quelque chose dont je ne parle pas. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas communicable. En tout cas, la démarche en elle-même. Je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un maçon depuis maintenant 20 ans. Je devrais d'ailleurs dire à ma loge qu'il pourrait quand même faire une petite fête, ces enfoirés.
Il faut attendre encore 13 ans.
Non, 20 ans. 20 ans. J'ai pas 51 ans, enfin, mais je remercie. Ah, d'accord. Et je n'ai jamais proposé à quiconque de rentrer en maçonnerie. C'est-à-dire que j'ai jamais... Je n'ai été parrain qu'une seule fois parce que quelqu'un me l'a demandé. Vous savez, en maçonnerie, on parraine les gens pour les faire entrer. Moi, je ne l'ai jamais fait. Non, parce que je n'ai pas du tout de démarche prosélytique. Ça ne m'intéresse pas de faire entrer les gens en franc-maçonnerie. Je n'ai pas envie qu'on soit nombreux. Je m'en fous qu'on soit nombreux ou pas. C'est une démarche tellement personnelle. Et si seulement toutes les démarches comme ça de quête spirituelle pouvaient l'être, moi, ça m'arrangerait. J'ai été élevé par deux parents catholiques qui sont adorables, mais qui m'ont baptisé gamin, je pouvais pas dire oui ou non, qui m'ont fait faire du catéchisme, qui m'ont fait faire ma profession de foi, ma communion, etc. Moi, mes enfants, je leur parle pas de franc-maçonnerie et je vais pas les emmerder avec ça. Si jamais un jour ils tombent sur un livre et qu'ils me disent « qu'est-ce que c'est, papa ?», je vais leur répondre, mais je vais pas les emmener en loge ou quoi que ce soit. C'est une démarche qui, pour moi, est beaucoup trop personnelle. Donc, voilà, c'est pas à moi qu'il faut venir en parler. Il y a tous les livres qu'il faut effectivement dans les bibliothèques. Et pour moi, c'est des démarches qui sont personnelles et qui doivent le rester pour rester pur. Il y a pas, je pense pas que on est finalement dans une même loge où vous avez 40 personnes dans la pièce. Je suis pas sûr qu'il y en ait deux qui soient rentrés pour les mêmes raisons. Et tant mieux.
Voilà. Merci. Jacques Basineau.
Un petit peu sur le même sujet, ben en fait, moi j'ai eu la chance de ne pas être parrainé, donc c'est vrai que c'est une démarche tout à fait personnelle et on vient vraiment dans le cadre d'une recherche spirituelle un petit peu, mais bon, que la religion ne peut pas résoudre, donc je trouvais ça voilà, très intéressant. Alors c'est vrai que moi j'en parle pas dans mes ouvrages, mais enfin dans mon roman en tout cas, mais c'est vrai que l'ésotérisme en tout cas, je pense qu'il y a, si vous voulez, cette vision qu'on a un petit peu d'observateur, où ça, on peut le trouver évidemment dans les livres qui en parlent. Mais c'est comme pour finalement le travail en loge, c'est-à-dire que c'est l'expérience, c'est ça le secret en fait, c'est ça le côté magique de l'ésotérisme en général. Et puis bon, si on veut faire la relation avec la franc-maçonnerie, ce sera ça aussi. C'est-à-dire, c'est l'expérience. On peut en parler autant qu'on veut. Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, tant qu'on n'a pas été sur le grand 8, on pourra vous dire qu'est-ce qu'on a ressenti dans le looping, mais tant que vous n'avez pas été sur le grand 8, vous ne saurez pas ce que c'est. Et je pense que l'ésotérisme, c'est pareil. Quand on parle de réenchantement du monde, de magie, de vraiment trouver un sens, finalement, notamment dans un monde hyper matériel, hyper rationnel, trouver un sens un petit peu plus spirituel à notre existence, bah c'est quelque chose qui est tellement personnel que tant que vous ne l'avez pas vécu, on pourra vous en parler ou écrire des tonnes de bouquins dessus, que ça ne vous parlera pas plus que ça. Et je dirais, donc c'est bien de lire, mais il faut le vivre en tout cas. Et c'est vrai que là, en plus, c'est un roman, si vous voulez, qui est un roman doublement initiatique, puisque je parle d'initiation ésotérique dans ce roman, mais en plus, c'est un voyage, puisque la Birmanie, bon, ça s'ouvre actuellement, ça devient un peu la destination à la mode, mais c'était un pays qui était resté 60 ans fermé, très inconnu. Et donc, finalement, c'est comme une initiation ésotérique, une initiation maçonnique, ou ce voyage-là, en fait, on se découvre soi-même, en fait. C'est un voyage personnel, donc là, géographique, mais aussi une introspection où ce qu'on trouve, ce n'est pas ce qu'on espérait chercher, ce n'est pas du tout un autre pays ou un ailleurs ou une altérité, c'est finalement soi-même qu'on découvre. Voilà.
Qu'est-ce que...
Alors moi, la maçonnerie m'a apporté beaucoup, hein, c'est clair.
Non, vous êtes beaucoup... resté en bas du Grand 8 et vous
Je suis resté en bas du Grand 8, mais franchement, c'est... Non, en fait, alors pour être sincère, j'ai voulu rentrer et ils m'ont refusé. Ouais, ils m'ont refusé, donc du coup, je suis allé au Club Mickey, quoi, parce que c'est quand même
c'est
plus
pas
sympa.
Vrai, c'est
Club
pas,
Mickey, il y a quelque chose quand même un peu plus fun, quoi.
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Donc j'en profite.
Qu'est-ce qu'il est bon, c'est un bon écrivain, parce que j'y ai cru, moi.
Donc j'en profite pour vous recommander L'Apothicaire, qui est quand même l'œuvre, non, allez, sans plaisanter, mais moi, mon préféré, c'est le syndrome Copernic. Non seulement c'est mon préféré, mais en plus, je l'ai cité dans La Croix des Assassins, où le héros au Brésil, à un moment donné, va sur une plage et on voit qu'il y a des allusions au syndrome Copernic. Et à l'époque, je ne connaissais pas ce monsieur. Bon, depuis que je l'ai connu, je me suis dit, dans toutes les nouvelles rééditions, j'ai tout biffé pour que... C'est trop tard. Non, alors, pour réfléchir sur le Grand 8, alors, non, ce qui est amusant, c'est que chez les maçons, ils vous disent, ouais, mais tant que t'es pas initié, vieux, tu peux pas comprendre ce que ça veut dire. Alors, moi, du coup, je rajoute dans les conférences, c'est un peu comme, comme vous lisez le Kamasutra et pratiquez le Kamasutra, c'est pas pareil, quoi. En gros, ils nous font le coup, les maçons. Ils sont très forts, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cérémonie d'initiation pour qu'ils nous disent, ah ouais, mais vieux, tu peux pas comprendre.
La même chose que dans le Kamasutra.
Voilà. Donc, ces gens, ils s'envoient en l'air. Voilà, c'est une sorte de jouissance cosmique à l'état pur. Et voilà, j'y ai pas droit. Ça, franchement, je peux quoi faire.
Si tu veux, on peut faire quelque chose sur scène, là. Il y a peut-être des gens qui peuvent se dévouer. Est-ce qu'il y a des sodomites dans la salle?
Et en plus, dans le Kamasutra maçonnique, il y a au moins 33 positions. Et quand vous allez dans certains secteurs, ça va jusqu'à 99. Donc franchement, il y a de quoi voir.
Le problème, c'est qu'il y a des hommes dans la franc-maçonnerie.
Ah bon? Ah bon? Ah bon? Il y a que des hommes en franc-maçonnerie?
Mais non, pas du
donc
tout.
Donc pourquoi vous m'avez posé la question?
Alors, je précise tout de suite, il n'y a pas que des hommes dans la franc-maçonnerie. Il y a bien sûr des femmes, il y a des obédiences féminines, il y a des obédiences mixtes, il y a des obédiences masculines. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Mais puisqu'on en est à parler de choses qui sont quand même un petit peu intimes, ça c'était un petit peu le sens de ce que disait Jacques tout à l'heure, faut relativiser les choses. D'abord, quand on est franc-maçon, on ne fait pas rentrer tous ses copains. C'est ce qu'a dit Henri, et c'est très juste. Dans une vie maçonnique, on fait rentrer une ou deux personnes. Rarement plus. Ensuite, les francs-maçons en France, c'est 150 000 personnes. Il y a 65 millions d'habitants. Donc, penser au grand complot maçonnique, ça paraît un petit peu difficile. Ou alors, vraiment, on se surmultiplie, mais ça me paraît pas possible. Et pour en revenir à ce que disait un petit peu tout le monde, mais je crois que c'est quand même important de le préciser, dans nos romans, nous, on décrit des scènes maçonniques, des rituels maçonniques. Et il y a des gens qui sont surpris, qui disent « Enfin, ces rituels, ils ne sont pas secrets ». Non, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous trouvez l'intégralité des rituels, adjectif par adjectif qualificatif, depuis même quasiment les premiers temps de la maçonnerie. Je crois que le premier dévoilement d'un rituel maçonnique en Angleterre s'est fait 3 jours après la tenue. Donc vous voyez, c'est allé assez rapide. Pourquoi? Parce
qu'ils n'avaient pas Twitter à l'époque.
Par
du coup,
Internet.
Exactement ça. Non, mais principalement parce que vous pouvez lire et vous pouvez relire une scène maçonnique, effectivement, elle ne se vit que de l'intérieur. Voilà. On est très très figés là-dessus, tous. Il n'y a pas de blague, c'est pas le Grand 8, mais effectivement, le vrai secret maçonnique, c'est pas de détenir le pouvoir du monde. On le regrette d'ailleurs, hein, personnellement, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est tout simplement quelque chose qui se passe dans la pratique continue du rituel, pas toujours, mais qui est vraiment, pour chacun d'entre nous, quelque chose d'important. Et ce que vous interrogez n'importe quel franc-maçon, quel que soit son statut social, plombier, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ministre, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais ils sont en tôle. Enfin, oui, ils vont y arriver. Vous affirmez pas, c'est une affaire de 3 ou 4 mois. On a les noms, nous, hein, on n'est pas fous. Hein. On les dénonce, d'ailleurs, nous-mêmes, c'est plus rapide. Mais tous ces gens-là vous diront la même chose, c'est que l'initiation, la pratique du rituel, apporte une dimension supplémentaire à votre existence. Et ça ne peut pas se dire, ça ne peut pas se répéter.
Merci à tous les quatre. Et je vous invite à continuer les discussions sous le chapiteau. Vous êtes en dédicace, je pense, toute l'après-midi encore et demain.
Alors moi, je m'en vais dans un quart d'heure. Donc,
D'accord.
Voilà, vous avez un cas. On peut faire du speed dédicacing, si vous voulez.